commencerai par un fait divers récent, si je puis dire. Donc, un texte suspect, voire coupable. Le 14 mars dernier, le journal de Montréal nous apprenait que l'auteur, pardon, Yvan Godbout et son éditeur, directeur général des éditions Adam, Nicolas Doucet, venaient d'être arrêtés par les policiers de la Sûreté du Québec. Ils étaient soupçonnés d'avoir produit et distribué de la pornographie juvénile avec le passage d'un roman qui décrivait l'agression sexuelle d'une fillette. On sait depuis que les deux hommes ont comparu au palais de justice de Sorel-Tracy, où ils ont été formellement accusés de production et de distribution de pornographie juvénile, sans possibilité d'enquête préliminaire. La description de l'agression sexuelle d'une fillette de 9 ans par son père dans le conte interdit Hansel et Gretel n'a pas que créé la polémique, elle les a conduits sur le banc des accusés. Une page sur près de 270, voilà ce qui a amené au début de 2018 une enseignante à porter plainte contre l'auteur, jugeant la description trop explicite. Une page, une fiction, de bon ou de mauvais goût, là n'est pas la question. Voilà ce qui a suffi à une comparution, en fait une accusation sans enquête préliminaire. L'enquête, qui est justement un mode opératoire de la narration policière, l'enquête, cette auscultation en détail de l'ensemble des conditions entourant un crime quel qu'il soit. Donc que le texte d'un auteur de littérature de genre, là, en l'occurrence fantastique horreur, mais il aurait aussi bien pu s'agir d'un polar, devienne l'objet non pas d'une investigation, mais des pires suspicions et accusations ne manque pas, à certains égards, d'ironie tragique. De fait, le cas n'est pas isolé. J'en viens donc à une partie que j'appelais le roman noir, un genre en procès. Littérature de la transgression, donc, le roman policier noir s'attire fréquemment les foudres de l'opinion publique, de la bien-pensance et aussi d'une justice qui ne semble plus savoir faire la différence entre la réalité et la fiction, ou plutôt entre la réalité des faits et la nécessité, dans un genre qui se veut réaliste et social, d'y puiser quelque chose de fort à raconter et à extrapoler. En 1998, le romancier français Thierry Jonquet a publié à la Série Noire le roman Moloch. Trois histoires s'inspirant de faits réels et tournant autour de l'enfance, de la douleur, de la persécution et de l'automutilation. L'auteur s'était notamment appuyé sur un fait divers de 1995, l'affaire Kaskaz, un tragique cas en fait de syndrome de Munchausen par procuration. Ce syndrome, rappelons-le, est une forme de maltraitance où une mère simule une pathologie organique chez son enfant, ce qui soumet ce dernier à des traitements inutiles et dangereux. En Alsace puis à Paris, une jeune mère, Liliane Kaskaz, donc, avait été soupçonnée d'avoir administré à sa fille de l'insuline après qu'ils eurent ôté pour rien la moitié du pancréas de la petite fille. Les médecins avaient conclu à l'empoisonnement. La mère devait passer en jugement, mais elle est décédée quelques semaines avant sa comparution devant la cour d'assises. Pour l'écriture de son roman, Jonquet a en partie repris l'histoire des Kaskaz en modifiant les noms des protagonistes et en inventant notamment une scène dans laquelle la mère est surprise à injecter de l'insuline dans le goutte-à-goutte de sa fille. Ni une, ni deux, à la parution du livre, l'avocat des parents de Liliane Kaskaz les a attaqués, lui et l'éditeur Gallimard, pour violation du secret de l'instruction. Au final, Thierry Jonquet a vu ses opposants perdre le procès au nom du droit des artistes à être inspirés par le réel, mais qui sait si ces remous n'ont pas eu raison à certains égards de sa réputation, de sa santé psychologique et de son assurance artistique. Autre cas, autre livre, celui de l'écrivain Lucio Mad, en mai 2000, un article du magazine L'Express, très justement intitulé « A-t-on encore le droit de s'inspirer des faits divers ?», évoquait la mésaventure de l'auteur du roman Paradis B. Dans cette fiction parue chez Gallimard dans la collection La Noire en 1998, il était question de terribles noirceurs, entre autres liées à la drogue, d'après des faits réels. 6 mois après sa publication, l'auteur et son éditeur ont été assignés en justice pour atteinte à la vie privée, par un tiers qui s'était reconnu dans le personnage coupable, mais qui, anecdote d'autant plus ironique, avait pourtant manifesté un grand enthousiasme à la lecture du manuscrit lorsque Lucio Mad le lui avait soumis pour, semble-t-il, accréditation de son réalisme criminel. L'article de L'Express relate ainsi la posture du plaignant et le dénouement de l'affaire. Il fanfaronnait auprès des autres copains de la bande: « Je vais faire cracher Gallimard, je vais ramasser un paquet ». Scandalisés, les copains ont soutenu l'auteur et le tribunal de grande instance a débouté le coquin. Dérangeant, voire attentatoire, diffamatoire, le roman noir, et pornographe, voyeur, voleur, immoraux, ceux qui en écrivent, quand ils ne sont pas confrontés aux aléas d'un procès ou d'une intention de procès, les auteurs et leurs ouvrages, qu'on a encore un peu trop tendance à fusionner au nom d'une mauvaise interprétation de l'effet de réel, subissent à coup sûr ceux du procès d'intention. Dans une entrevue qu'il a accordée au Nouvel Obs en 2015, Jean-Bernard Puy, incarnation du polar dit de gauche et inventeur entre autres de la saga et du personnage du Poulpe, raconte ainsi que sa seule scène un peu violente se trouve dans La Belle de Fontenay, parue en 92, un doigt coupé au sécateur. L'auteur témoigne, on est loin de la viande au plafond qu'on lit dans le premier thriller venu, eh bien j'ai reçu des messages outragés de quelques lecteurs, t'as pas le droit de faire ça, c'est dégueulasse. Le droit, absurde glissement, le reproche esthétique, la critique littéraire et même idéologique sont une chose, le déni du droit de remettre en scène tel fait ou geste en est un autre. Thierry Jonquet, encore lui, racontait en 2001 au journal Libération que Didier Deninx, également auteur de romans noirs, entre autres axés sur le racisme et l'antifascisme, avait fait courir la rumeur qu'il était négationniste. L'article du Quotidien, qui explorait là les conflits larvés au sein du milieu du polar français de l'époque, mettait ainsi en lumière comment Deninx, acharné à traquer depuis le début des années 90 les rouges-bruns, entente contre nature entre les rouges communistes et les bruns fascistes, et la dérive d'une frange de l'ultra-gauche vers le négationnisme et l'antisémitisme, avait fini par se perdre en faux procès et accuser ses collègues. Plus tard, en 2006, Jonquet a publié au Seuil « Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte », qui suit des destins tragiques et meurtriers sur fond de misère sociale dans les quartiers difficiles d'une ville imaginaire de la banlieue parisienne. Parce que son récit décrivait l'antisémitisme ordinaire et intolérant d'une partie des populations musulmanes des banlieues françaises, l'auteur avait encore une fois été soupçonné par ses anciens camarades trotskistes de dérive réactionnaire, ce qui ne l'a pas empêché de recevoir l'année suivante la médaille d'honneur de la LICRA, donc la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Plus récemment, l'écrivain Jérôme Leroy, auteur entre autres des romans Le Bloc et L'Ange gardien, parus respectivement en 2011 et 2014 à la Série Noire, s'est lui aussi vu qualifier de « rouge-brun » par une certaine frange du milieu littéraire. Dystopique, Le Bloc imagine la funeste nuit au cours de laquelle un parti politique qui ressemble très fortement au Front National accède au pouvoir. Écrit à la fois au « je » et au « tu », le récit suscite de l'empathie pour les pires extrémistes dans la mesure où il force le lecteur à devenir les narrateurs. D'un côté, un ancien skinhead nommé Stanko, de l'autre, Antoine Ménard, un intellectuel grand bagarreur et compagnon de la chef du Parti nationaliste, Agnès Dorgel. Ménard, précise Leroy, est surtout l'occasion d'une critique de la pensée d'extrême droite, critique d'autant plus dure qu'elle est empathique, et l'auteur de se désoler de la réduction intentionnelle de celles et ceux qui le confondent avec les protagonistes de son roman, ou alors voudraient voir dans son expérimentation une forme de complaisance vis-à-vis du Front National ou de n'importe quel parti fasciste. L'étiquetage négatif, politique ou criminel, voilà ce qui guette les auteurs qui choisissent de transgresser l'ordre établi de la littérature en partant du principe, comme Jérôme Leroy, que 95% des livres sont inoffensifs. Pour Leroy, la littérature sert à blasphémer parce que, je cite, « le blasphème est la seule fiction qui puisse dépasser la réalité ». Le roman noir aurait ainsi pour but d'effectuer, je cite, « le beau travail du négatif, celui qui bouleverse, détruit, sape toutes les certitudes politiques et morales d'une société ». Faut-il malheureusement que les écrivains qui choisissent cette voie portent le masque ou déploient quelque paravent, par exemple comme D.O.A. qui choisit d'écrire sous un pseudonyme de trois lettres, un acronyme signifiant « dead on arrival », soit « mort à l'arrivée de la police », et qui prétend rester discret pour ne pas que son identité pollue la lecture de ses romans. Comment réaffirmer la valeur du fameux avertissement « ce roman est une fiction, toute ressemblance avec des événements ou personnages réels serait une pure coïncidence » avertissement que Thierry Jonquet avait d'ailleurs intégré en préalable à Moloch. Peut-être en appuyant encore et toujours la notion de liberté qui ne semble plus acquise d'emblée. En exergue de son dernier roman Raquette, paru en 2018 aux éditions Les Arènes dans la collection Equinox, Dominique Manotti précise ainsi « Ce roman est librement, très librement inspiré de l'affaire Alstom, le rachat de l'entreprise française Alstom Energy par l'entreprise américaine General Electric ». De son côté, Antoine Chenas se déjoue des rapports vrai-faux et réel-fiction en mettant ainsi en demeure les lecteurs de son roman « Empire des chimères » paru en 2018 à la Série Noire. Ce récit est une œuvre de fiction. Par conséquent, toute ressemblance avec des faits réels et irréels, toute similitude avec des personnes existantes et inexistantes ne saurait être que fortuite et volontaire. Une manière de réaffirmer que le réel convoqué mérite aussi d'être recomposé, réinterprété, pour en démontrer, par exemple, toute la déliquescence morale ou idéologique. Il n'empêche que le noir dérange, bouscule, choque, fâche, déclenche des foudres. Quand il a fait paraître sur Internet, quelques années après sa publication dans la revue Alibi en 2003, sa nouvelle intitulée Du sien plein les mains, André Marois, auteur du Québec, raconte qu'elle est très vite devenue virale. Je me suis laissé dire que son texte, qui suit l'épopée très meurtrière d'un graphiste écœuré de la laideur des publicités, avait beaucoup troublé, agacé quelques personnes aussi bien dans le milieu littéraire qu'ailleurs. C'est certain, même aujourd'hui, la similitude comportementale de son protagoniste, qui déboule lourdement armé dans des agences pour y tirer à vue sur des directeurs artistiques et des créatifs, avec la furie de nombreux tueurs de masse, ne plaît pas du tout en faveur du politiquement correct. On n'ose à peine espérer l'accueil qui aurait été réservé au texte s'il avait été question de porter atteinte, via le personnage, précisons-le, par exemple à des minorités au Québec et dans les sociétés anglo-saxonnes très policées plus qu'en France encore. Le débat pourrait précisément se polariser sur cet aspect. J'en veux pour preuve la récente polémique à propos de la publication d'une courte fiction vaguement policière intitulée Qui, où, avec quoi, et signée David Doré dans XYZ, la revue de la Nouvelle, à l'automne dernier. La toute récente directrice de la revue, Vanessa Courville, a déclaré avoir claqué la porte de la rédaction parce qu'elle refusait de cautionner ce texte, se clôturant sur une scène d'agression sexuelle. Elle souhaitait ainsi marquer sa rupture avec un milieu où s'exerce, selon elle, du machisme ordinaire et une culture de boys club et où les femmes peinent à se faire une place, encore plus à des postes de décision. Il apparaît, après le fin mot du conflit, que le hors-texte importait plus que le récit lui-même, dont on peut tout à fait contester la qualité littéraire sans chercher à le moraliser ou à en cliver l'idéologie, même pas sous-jacente, hypothétique, rien que très hypothétique. C'est certain, le noir fait réagir, le noir ouvre des blessures et n'hésite pas à s'accaparer des douleurs sociales et communautaires pour mieux les identifier, voire les dénoncer. Dans son autre mort, paru à la série Noire en février dernier, l'auteur Elsa Marpeau utilise comme autant d'adjuvants auprès de son héroïne mère de famille en fuite après un homicide involontaire quelques-uns des faits divers et scandales, disons les plus symptomatiques des dernières années. La protagoniste invente ainsi une vie d'écrivain polémique, une sorte de Michel Houellebecq, ainsi que des alibis et des coups d'éclat médiatiques faisant par exemple du mouvement MeToo et du hashtag français Balance ton porc ses sources d'inspiration privilégiées. Sacrilège, opportunisme honteux. Si l'auteur avait été un homme, nul doute que critiques et féministes auraient réagi avec véhémence. Qu'importe, le roman de Marpeau ne montre pas autre chose que la complaisance, même inconsciente, de la médiasphère et de l'opinion publique pour les inégalités et les exactions. Qu'il s'agisse donc de l'affaire Yvan Godbout, de la réécriture de faits divers, du cas de l'étiquetage rouge-brun de Jérôme Leroy ou de la possible mais réfutable misogynie d'un texte paru dans XYZ de la revue de la Nouvelle, le vif débat suscité par la teneur incorrecte de tel ou tel écrit fictif relève en fin de compte de cette réduction intentionnelle dont parlait justement l'auteur du bloc, ainsi que de la confusion éternelle, dirais-je, entre sympathie et empathie envers les personnages et parfois entre auteur et narrateur, sans compter qu'une telle équation néglige un acteur et responsable important du processus d'interprétation et d'appropriation, le lecteur, transformé lui aussi en coupable, notamment dans le cas Godbout. Alors le roman noir, un lieu d'amoralité ou un lieu de crise? Littérature du désordre, le roman noir actuel traite, pour reprendre les mots de Jean-Patrick Manchette, d'un monde déséquilibré, appelé à tomber. Plus qu'une peinture ou une dénonciation, le genre policier noir cherche à écorcher l'organisation sociale par la création de figures et de motifs frappants. C'est donc avec une violence et un ultra-scepticisme décomplexé vis-à-vis de l'ordre établi, des autorités du monde et de ses conventions, que les polars les plus sombres d'aujourd'hui éprouvent la désillusion du monde et de nos valeurs morales. Davantage focalisé sur les combats perdus que sur les éventuels gains de cause, ce type de fiction cherche au fond à établir de façon définitive, comme l'écrivent les essayistes allemands Elfriede Müller et Alexander Ruhoff dans Le polar français, crime et histoire, que l'ordre des choses est scandaleux et qu'il sera nécessairement toujours producteur de crimes. De quoi croire, une bonne fois pour toutes, que le désespoir fait vivre. Reformulation d'un fameux proverbe proposé à la fin du deuxième volet de Pouctou par le personnage de Lynx, figure ambivalente du cycle clandestin de Déoa. Le roman noir actuel, un genre nihiliste, point d'interrogation. Pour le psychanalyste Robert Collin, l'épreuve de la désillusion, du désenchantement et du désabusement qu'entraîne le délitement insidieux de toutes les notions de bien, de mal, de positif et de négatif, participe, je cite, a provoqué une réaction en chaîne où s'imbriquent invariablement plusieurs formes de nihilisme, parmi lesquelles le nihilisme actif de la terreur ou la passion bruyante de destruction qui résulte d'une rage meurtrière s'empare de celui qui, lui-même, a été détruit. Or, de rage, il en est plus que question dans le genre noir actuel. En France, moult ouvrages de fiction signés par des figures fortes du genre comme D.O.A., Le Serpent aux mille coupures, Pouctou, Antoine Chanaz, Versus, Une histoire d'amour radioactive, Pur, Empire des chimères, Elsa Marpeau, Black Bloc, Et ils oublieront la colère, Son autre mort, et Jérôme Leroy, Le Bloc et l'Ange gardien, manipulent ces sentiments et soulèvent des questions débarrassées notamment de tout idéalisme et des oppositions gauche-droite, celle-là même qui animait une bonne partie du néopolar initié par Jean-Patrick Manchette et aujourd'hui encore cultivée par Jean-Bernard Puy, dont le dernier roman à la série noire se veut ancré dans l'univers des ZAD, pardon, les zones à défendre. En 10, peut-être 15 ans, un renouvellement des générations d'auteurs de noir s'est opéré. Les écrivains post-mai 68, certes désillusionnés du socialisme, mais au discours et histoire en général polarisés, voire encore gauchisés, ont cédé la place à des romanciers plus âpres, plus durs, plus libertaires et ou amoraux, quoique Manchette déjà n'hésitait pas à nous mettre dans la peau d'un parfait salaud barbouzard et raciste dans l'affaire Angoustreau. Cette nouvelle génération du roman noir, surtout en France donc, s'est trouvée d'un côté bercée par l'écriture syncopée de James Ellroy et la décadence des romans dystopiques ou étranges de Bret Easton Ellis et de Chuck Palahniuk, l'auteur de Fight Club, de l'autre, confrontée à l'échec patenté des mouvements militantistes de gauche et à la dépolitisation massive de la société, tout un programme. Je vais aller vite parce qu'il me reste juste 2 minutes. Le ver est dans le fruit. Pour témoigner des ravages de crise du troisième millénaire, ces romans noirs, souvent terminaux, ne cherchent plus à défendre seulement l'opprimé, ni à placer leur voix dans le camp de ceux qui pensent ou agissent bien. Ils privilégient via leur narrateur, tantôt anonyme, tantôt subjectif, à la limite de la misanthropie, ou alors doté d'une partialité à géométrie variable, certaines formes d'inconduite morale et sociale faites de culte de la terreur et de l'autodestruction, de corruption absolue, de violence sans borne, par exemple, à l'égard des enfants. Je prends l'exemple du garçon à la fleur dans Pouctou, qui est tour à tour barbare sanguinaire, capable d'une décapitation et en même temps victime des pires violences et de viols de factions talibanes rivales, ou d'un enfant qui s'appelle Jesus dans Cartel de Don Winslow, l'écrivain américain, qui est ballotté de clans, de cartel en cartel, et que le héros, agent de la DEA Art Keller, finira par retrouver en train de jouer au football avec la tête d'un trafiquant rival. Immanquablement, la liberté de ton et de traitement de ces textes fait fi des droits de la personnalité auxquels voudrait se référer le lecteur attaché, disons, au bon sens moral et à un manichéisme même biaisé établi dans les traditions du genre. Donc j'en viens à ma conclusion, je saute un certain nombre de passages et d'analyses, mais on peut en parler dans les questions. Au fond, toutes ces narrations apparaissent comme la manifestation d'une emprise sur le réel poussée à l'extrême, c'est-à-dire dans ses retranchements les plus violents, sublimés parce que coulés, bien souvent quand même dans une forme poétique, ou cinglés pour les mêmes raisons, mais dans une tonalité moins admirative et souvent chargée de sème de négativité, par des situations dramatiques, le langage des narrateurs et le discours des personnages. Ces indices de méfiance contribuent-ils à un marquage idéologique nouveau? Sans doute la question a-t-elle quelque chose d'insoluble et de trop subjectif, mais elle a le mérite d'en faire surgir une autre. Raconter une histoire de façon sombre et cruelle, en ironisant parfois jusqu'à la négation absolue de toute valeur morale, n'est-ce pas le signe de l'émergence d'un nouvel ethos de l'écrivain de roman noir plutôt que celui d'un simple refus de la tradition? Ethos qui est justement celui auquel se heurte assez fréquemment le moralisme et ses tentatives pour contrôler la littérature. On se souviendra, à l'instar des erreurs de lecture dont a pu s'émouvoir un jour André Gide, à quel point un livre échappe à son auteur et doit même lui échapper pour être fertile. On n'oubliera pas surtout que chaque roman est en fait caractérisé par un mélange inextricable d'ironie et de sérieux, ce qui est une façon, je cite encore Gide, de laisser la porte ouverte aux ambiguïtés de l'être et du texte.
Merci.